Il resta avec Philippe parce qu'il était émerveillé par les miracles. Il découvrit qu'il y avait une plus grande puissance dans le ministère du baptême dans le Saint-Esprit exercé par les apôtres. Il voulait la puissance. Il n'avait pas vraiment été attiré par le Seigneur Jésus. Il était attiré par les miracles. La Bible dit pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Jean 2, 23-25. La foi de Simon était du même type, et elle ne le conduisit pas à la vie éternelle. Il ne fut pas régénéré. Pierre dit « Il n'y a pour toi ni part, ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible, car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Acte 8, 21-23. Le cœur de Simon n'était pas droit devant Dieu. Il était dans le fiel de l'amertume et dans les liens de l'iniquité. Il devait se repentir. C'était la condition de son cœur, quoiqu'ayant cru et ayant été baptisé dans l'eau. Il n'était pas un vrai croyant. Lorsqu'on lui demanda de se repentir, il ne le fit pas. Il voulut seulement éviter de subir la malédiction. Il dit « Priez-vous même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. » Acte 8, 24. Ce fut une triste demande. Il ne demanda pas que le Seigneur lui pardonne et change son cœur, mais il voulait continuer à vivre sans être atteint par son jugement. Page 26. Baptisé, mais loin du Seigneur? Baptisé, mais inconverti. Est-ce ton cas? Repends-toi et sois baptisé, sinon tu périras. Même dans une assemblée locale où la puissance et la présence de Dieu sont manifestes, il peut toujours y avoir des gens qui ne sont pas régénérés. Ils ne sont pas venus à Jésus en tant que leur Seigneur, mais pour obtenir quelque chose de lui, la guérison, la paix ou quelque gain matériel. Ils ont cru d'une certaine manière, mais ils ne sont pas régénérés. Ils peuvent s'exprimer d'une manière correcte et avoir un comportement extérieur de chrétien, mais ils n'appartiennent pas au Seigneur. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Es-tu l'un de ceux-là? Cependant, dans une assemblée qui est, selon le cœur de Dieu, de telles personnes doivent représenter une minorité extrême. Si leur pourcentage s'accroît, c'est que les choses vont bien mal. Ne quitte pas une assemblée locale à cause d'une ou de deux personnes de ce genre. Les anges demeurent des anges et sont lumineux et saints, bien que le premier d'entre eux, Lucifer, ait chuté. Le baptême et le salut le Seigneur Jésus a dit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Marc 16, 16. Le Seigneur ne parle pas ici du fait d'être sauvé de l'enfer. Ce salut est reçu sur la base de la foi en lui. Lorsque quelqu'un croit en lui, cette personne est immédiatement sauvée des conséquences du péché. Elle reçoit immédiatement la puissance de devenir enfant de Dieu. Elle reçoit immédiatement la vie éternelle. La Bible dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Jean. Page 27. 1, 12-13. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8, 1. Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Romains 10, 910. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Romains 10, 13. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. 1 Jean 5, 13. Ainsi, devant Dieu, une personne est sauvée dès le moment où elle croit. Elle est justifiée et il n'y a plus de condamnation pour elle. Cependant, cette même personne appartient au monde qui a crucifié le Seigneur Jésus. Ce monde est hostile et opposé à Dieu. Cette personne peut être justifiée devant Dieu, mais, devant l'homme, elle est encore considérée comme appartenant au système qui s'oppose à Christ. Elle n'a pas encore donné de témoignage devant les hommes, prouvant qu'elle a quitté ce système du monde, qu'elle s'est séparée de ce système, et qu'elle l'a, en quelque sorte, livrée au jugement. C'est le baptême qui permet de donner ce témoignage. Il nous sépare du monde et du système du monde. L'apôtre Pierre a dit « Sauvez-vous de cette génération perverse de ce monde pervers » acte 2, 40. La Bible ajoute immédiatement « Ceux qui reçurent de bon cœur sa parole furent baptisés » acte 2, 41. Ils se sauvèrent de ce monde pervers en se faisant baptiser, mais ils ne furent pas sauvés de la mort éternelle en passant par le baptême. C'est plutôt par la foi au Seigneur Jésus qu'ils furent sauvés. Le baptême concerne notre relation avec le monde. Nous savons que Saul de Tarse avait rencontré le Seigneur ressuscité sur le chemin de Damas. Dès le moment où il s'abandonna à lui, il fut justifié. Lorsqu'Anania arriva, il appela frère Saul acte 22, 13, pour prouver le fait que Saul était maintenant un enfant de Dieu. Page 28. Mais il dit à Saul et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur acte 22, 16. La question qui se pose est la suivante, les péchés de Saul n'avaient-ils pas été lavés lorsqu'il crut, trois jours auparavant, sur le chemin de Damas? De quel péché devait-il maintenant être lavé en se faisant baptiser? Voici la réponse devant Dieu, les péchés de Saul avaient été lavés sur le chemin de Damas. Mais, devant le monde, ses péchés étaient encore considérés comme demeurant en lui. Il devait donc se lever et se faire baptiser pour être ainsi lavé de ses péchés. Qu'en aurait-il été si ses péchés avaient été pardonnés et lavés par Dieu, alors que devant les hommes il aurait encore été considéré comme demeurant dans ses péchés? Eh bien, comme le brigand sur la croix, il aurait eu la vie éternelle. Mais, devant le monde, il n'aurait pas eu de témoignage. Il aurait encore été considéré comme faisant partie du monde. Il n'aurait pas été connu comme faisant partie de ceux qui avaient été appelés par le Seigneur à sortir du milieu du monde. Voyez-vous, lorsqu'un homme croit, il doit être baptisé afin d'être ajouté à ceux qui sont appelés par Dieu à sortir du monde. La Bible dit, et, par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant « Sauvez-vous de cette génération perverse ». Ceux qui reçurent de bon cœur sa parole furent baptisés, et, en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières acte 2, 40-42. Si tu crois en Jésus, et si tu n'es pas encore baptisé, tu es un individu isolé. Le monde te connaît comme faisant partie de lui. Tu n'appartiens pas au corps local de Christ parce que tu n'as pas été ajouté à ce corps par le baptême. Cela importe-t-il que tu fasses partie du corps local de Christ? Tu dois savoir que les objectifs de Dieu, dans le temps, sont totalement liés à ce corps. Ne pas faire partie de ce corps, page 29, c'est te séparer des plans temporels de Dieu. Pourquoi donc attendre? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Dans de nombreux pays, celui qui croit en Jésus mais qui n'est pas baptisé ne subirait aucune persécution. D'une manière ou d'une autre, les gens pensent que tant que quelqu'un n'est pas baptisé, il n'est pas complètement perdu pour eux. Ils considèrent qu'il n'a pas encore pris de décision définitive pour appartenir éternellement à Christ et à son corps, pour le meilleur et pour le pire. Le monde a encore l'espoir de récupérer une telle personne. Cependant, lorsque cette personne est baptisée, les gens du monde savent avec certitude qu'elle s'est engagée sérieusement avec Jésus et qu'elle est éternellement perdue pour eux. Son baptême leur déclare de manière définitive que cette personne en a fini avec le monde, avec ses systèmes religieux et tout ce qu'ils offrent. Dès ce moment-là, elle est candidate à la persécution et il se peut même qu'elle soit mise à mort. Toi qui crois mais qui ne veux pas être baptisé, je voudrais te poser une question. Envisages-tu secrètement de renier un jour le Seigneur? As-tu peur de la persécution? Est-ce pour cela que tu refuses de t'identifier entièrement au plan de Christ? As-tu peur d'être chassé d'un système religieux ou d'un autre? Je t'encourage à considérer soigneusement les paroles suivantes du Seigneur Jésus. Il a dit, je vous le dis, quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu. Mais celui qui me reniera devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu, Luc 12, 8-9. Toi aussi, tu dois accepter d'être baptisé. Sois baptisé immédiatement. Quelques aspects pratiques. Page 30. À quel moment doit-on être baptisé après avoir cru? On doit être baptisé immédiatement après avoir reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Le jour de la Pentecôte, ceux qui crurent furent baptisés ce même jour. La parole de Dieu dit ceux qui reçurent de bon cœur sa parole furent baptisés et, en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes, acte 2, 41. Notez bien ce même jour. Corneille et sa maison furent baptisés immédiatement après qu'ils eurent cru, acte 10, 47. Le geôlier de Philippe fut baptisé la nuit même où il crut. La Bible dit il les prit avec lui, à cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens, acte 16, 33. L'Église primitive n'attendait pas des jours ou des mois pour baptiser quiconque croyait. La Bible ne nous dit nulle part qu'il faut attendre. Beaucoup de personnes avancent des raisonnements humains pour attendre. Par exemple, certains disent qu'on ne devrait pas baptiser les gens immédiatement après qu'ils aient cru parce qu'ils veulent qu'un certain temps s'écoule afin d'être sûr que leur conversion soit authentique. Cet enseignement ne peut venir que du diable pour les deux raisons suivantes. La première est que les apôtres n'usèrent d'aucune de ces méthodes pour s'assurer de quoi que ce soit. La Bible ne donne à personne la liberté de s'assurer de cette manière. Seul le Saint-Esprit peut produire de véritables convertis. Il n'a pas besoin de temps pour accomplir cela. Aucun être humain ne peut dire de façon absolument certaine que telle personne appartient véritablement à Jésus. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. En un sens, lui seul connaît ceux qui lui appartiennent. Il connaît aussi le cœur des hommes. Nous avons vu qu'il ne se fiait pas à ceux qui croyaient en lui à cause de ses miracles. Page 31. Nous remarquons qu'à l'époque de la Bible, certains se sont retirés. L'apôtre Jean a dit « Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous, mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres » 1 Jean 2, 19. Ces gens dont parle l'apôtre avaient fait partie de l'église locale pendant un temps. Après cela, ils s'étaient retirés pour prouver qu'ils n'étaient pas authentiques. Ils avaient confessé Christ et avaient été baptisés, mais ils ne lui appartenaient pas vraiment. Au départ, les apôtres ne l'avaient pas su, mais Dieu connaissait ces personnes pour ce qu'elles étaient. Les apôtres s'étaient appuyés sur la confession de ces gens pour les baptiser. Dieu s'appuya sur ce qu'il voyait en eux et il ne se fiait pas à eux. L'apôtre Paul avait accompli un merveilleux ministère en Asie, acte 19, 1-19, de sorte que tous les habitants de l'Asie entendirent la parole de Dieu en 2 ans. Ce ministère, confirmé par des miracles, fut tellement puissant que la Bible dit c'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force, acte 19, 20. Mais ces gens ne persévérèrent pas jusqu'à la fin. Ce même apôtre qui leur avait administré la parole devait écrire plus tard « Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné » de Timothée 1, 15. Le Seigneur connaissait leur cœur dès le commencement. Ce cœur était comme un seul pierreux. L'apôtre ne le savait pas. Il avait agi sur la base de leur confession. S'il avait dû attendre pour voir s'ils étaient de véritables convertis, il ne les aurait jamais baptisés, mais il les baptisa. Une question se pose donc si l'on doit attendre pour voir si les candidats au baptême sont de vrais convertis. Combien de temps devra-t-on attendre ? La seule manière convenable de procéder serait d'attendre le jour de leur mort pour s'assurer qu'ils ne rechuteront pas. Car certains se retirent après quelques jours et d'autres après quelques mois. Certains se retirent sans avoir produit un seul fruit visible aux yeux humains, mais d'autres sont de faux convertis. Même page 32. S'ils ont produit beaucoup de fruits, Matthieu 7, 21-23. Les apôtres étaient confrontés à de nombreuses fausses conversions, à des rétrogrades, etc., mais ils continuaient à baptiser les gens immédiatement après que ceux-ci aient reçu le Seigneur Jésus. Se détourner de leur modèle et de la folie. Certains argumentant en disant que les évangélistes, pasteurs et prédicateurs n'ont pas aujourd'hui la même onction et la même puissance que les premiers apôtres et que la réponse à leur prédication ne peut donc pas être la même ni produire des croyants que l'on peut baptiser immédiatement. Nous répondons à cela que quiconque ne possède pas la même onction, la même puissance et la même consécration que les premiers apôtres doit immédiatement arrêter de prêcher jusqu'à ce qu'il ait la même puissance et la même consécration. Continuer à prêcher sans avoir la même onction et la même consécration, c'est faire un très grand mal à Dieu. Puis-je te le dire solennellement, si tu n'as pas la même puissance et la même consécration que les premiers apôtres, tu ne dois plus prêcher un seul sermon au nom du Seigneur Jésus. De tels sermons sont un fardeau pour Dieu. Le diable se réjouit de t'entendre prêcher et le royaume de Dieu en souffre. Abandonne la prédication. Va au Seigneur Jésus et ne quitte pas sa présence jusqu'à ce qu'il fasse pour toi ce qu'il a fait pour eux. Il continue aujourd'hui à bâtir la même église qu'il a bâtie au début et il ne peut utiliser que le même type d'ouvrier. Je t'avertis de nouveau, si tu n'as pas la même consécration et la même puissance que les premiers disciples, et si tu continues à prêcher, à enseigner ou à évangéliser, tu peux détruire de façon permanente ton esprit et ton âme, car tu es en train de te moquer de Dieu en prêchant, en enseignant et en évangélisant comme tu le fais. Si un homme charnel prêche un certain évangile et obtient quelques résultats charnels, puis s'il prend le temps de voir si ses convertis sont authentiques ou non, avant de les baptiser, il sera toujours dans l'erreur, car le temps n'aidera pas, page 33. Le message d'un homme charnel à produire plus de fruits dans la vie de ceux qui l'écoutent. Celui qui prend une décision pour Christ, mais sans être sauvé, ne sera pas sauvé par le temps, qu'il passera ensuite dans l'Église. Il deviendra seulement plus religieux. Les prédicateurs d'aujourd'hui doivent être qualifiés devant Dieu pour prêcher l'Évangile. Et lorsqu'ils prêchent, ceux qui se convertissent doivent être immédiatement baptisés. Finalement, la vraie question est de savoir si oui ou non nous voulons suivre le modèle de la Bible. Certains se sont détournés de ce modèle pour ce qui concerne les conditions à remplir par ceux qui doivent être baptisés. Ils mettent en avant leurs raisons pour mettre de côté la parole de Dieu ou bien ils l'attordent pour qu'elle serve leurs intérêts. Certains se sont égarés en ce qui concerne la manière dont on doit être baptisé. Aujourd'hui, même ceux qui disent prêcher toute la vérité se trompent lorsqu'il s'agit de dire à quel moment un converti doit être baptisé. Ils se sont tous détournés de la vérité et ils devront en rendre compte au jour du jugement. Dieu veut que l'on respecte tous les aspects de sa vérité. Quant à toi, sois fidèle à la parole. Baptise ceux qui se sont convertis dès qu'ils ont confessé Christ. N'attends aucun autre signe intérieur ou extérieur. Ce sont les signes qui suivront. Que Dieu te bénisse. Qui doit baptiser un chrétien? On est qualifié pour baptiser quelqu'un si l'on s'est soi-même repenti de ses péchés, si l'on a reçu le Seigneur Jésus comme son sauveur personnel et si l'on a été soi-même baptisé. Tu ne peux pas conduire quelqu'un à une expérience que toi-même tu n'as pas connue. Il est terrible de se faire mouiller par un incrédule à qui un certain titre religieux a été donné par une quelconque organisation religieuse humaine. Page 34. Si nous pouvons montrer clairement la voie du salut à quelqu'un et l'aider à recevoir le Seigneur Jésus, c'est que nous devons posséder la qualification spirituelle nécessaire pour baptiser la personne que nous avons conduite au Seigneur. Ceux qui enseignent que seuls les pasteurs, évangélistes, etc. doivent baptiser ceux qui peuvent et veulent être baptisés enseignent quelque chose qui n'existe pas dans le Nouveau Testament. Demandez à un croyant qui veut être baptisé de promettre de se joindre à une dénomination est une abomination. Pourquoi ne pas lui demander de promettre de se joindre à ta dénomination avant même de lui montrer le chemin du salut? Les yeux du Seigneur sont tournés vers son royaume et sa gloire à venir. Tout ce qui est reconnu comme christianisme dénominationnel sera bientôt exposé pour ce qu'il est réellement un piège de l'ennemi. Quand le Seigneur exposera la vérité, beaucoup réaliseront qu'ils ont travaillé en vain. Pour éviter le choc que t'apporterait ce jour, retourne à la Bible. Crois à ce qu'elle dit. Vis ce qu'elle dit, et tu n'auras pas honte quand le Seigneur viendra. En quel nom faut-il baptiser un chrétien? C'est le Seigneur Jésus qui a donné le commandement de baptiser. Il a dit, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Matthieu 28, 19. Ce sont ses paroles. Elles sont définitives. C'est lui qui a raison? Par conséquent, je t'en prie, obéis à ses instructions. Baptise les convertis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ne te détourne pas de cet ordre. Jésus l'a dit, et celui qui l'a dit sera ton juge? Tu dois agir comme il l'a dit, afin que, lorsque tu arriveras devant lui, tu puisses lui dire « J'ai fait comme tu l'avais ordonné ». Que Dieu te bénisse. Page 35. Question justifie ta réponse par les versets bibliques appropriés. 1. À quel âge le Seigneur Jésus fut-il baptisé?
2.
Pourquoi le Seigneur Jésus a-t-il insisté pour qu'on le baptise?
3.
Que se passa-t-il immédiatement après le baptême du Seigneur Jésus?
4.
Quel a été le commandement du Seigneur Jésus à ses disciples à propos du baptême?
5.
Quelle fut la réponse de l'apôtre Pierre à ceux qui écoutèrent l'Évangile, qui eurent le cœur vivement touché, et qui demandèrent « Frère, que ferons-nous ? »
6.
As-tu obéi au commandement de l'apôtre ?
7.
Qui était qualifié pour être baptisé le jour de la Pentecôte ?
8.
Quelles conditions les personnes suivantes avaient-elles remplies pour être baptisées ? À l'eunuque éthiopien.
B. Corneille.
C'est le geôlier de Philippe.
9.
Décrit comment Philippe baptisa l'eunuque et explique pourquoi il n'aspergea pas de l'eau sur sa tête.
10.
Pourquoi aucun enfant n'est baptisé dans la Bible?
11.
Le rebaptême est-il possible?
12.
Pourquoi les Éphésiens furent-ils baptisés? Actes 19, 16,
13.
Montre clairement 6 aspects de la signification spirituelle du baptême.
14.
Le baptême est-il la fin de la marche chrétienne? Justifie ta réponse.
15.
Que se passe-t-il si quelqu'un continue à pécher après? Page 36. Avoir été baptisé.
16.
Le baptême est-il nécessaire pour être justifié?
17.
Si quelqu'un croit mais ne se fait pas baptiser, aura-t-il la vie éternelle?
18.
Quel est l'effet du baptême sur notre relation avec le monde?
19.
Combien de temps faut-il attendre pour être baptisé une fois que l'on a cru?
20.
Qui est qualifié pour baptiser?
21.
En quel nom un croyant doit-il être baptisé?
22.
As-tu été baptisé depuis que tu as cru?
23.
Si une personne a seulement été aspergée d'eau après avoir cru, ne peut-on simplement l'encourager à suivre Christ sans l'ennuyer en lui demandant de passer par le baptême d'eau par immersion?
24.
Si un adulte est baptisé sans avoir cru, doit-il encore être baptisé s'il devient réellement chrétien?
25.
Pourquoi l'aspersion n'est-elle pas le baptême? Page 37. Page 38. Deuxième partie, le baptême du Saint-Esprit. En ce qui concerne le baptême d'eau, il y a celui qui baptise, celui qui est baptisé et l'élément dans lequel la personne est baptisée. C'est le modèle de tous les baptêmes. Ces trois éléments doivent aussi être réunis dans le baptême du Saint-Esprit. Dans notre étude, nous commencerons par voir comment le Seigneur Jésus a été baptisé dans le Saint-Esprit, car il est notre modèle suprême. Le baptême de Jésus-Christ dans le Saint-Esprit, dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection » Matthieu 3, 16-17. Le baptême de Jésus dans le Saint-Esprit avait été promis, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, Esaïe 11, 1. Le baptême de Jésus dans le Saint-Esprit eut lieu après son baptême d'eau. Le Dieu du ciel aurait pu déverser son Saint-Esprit sur son Fils avant que celui-ci soit baptisé d'eau, mais Dieu ne le fit pas. En baptisant ainsi son Fils dans le Saint-Esprit, après son baptême d'eau, Dieu établit l'ordre normal et la voie habituelle que devront suivre ses autres enfants qu'il devait acquérir par l'obéissance du Fils unique. Il convenait, en effet, que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils élevé à la perfecte page 39, Sion par les souffrances le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères hébreux 2, dit Tirée 11. Le baptême de Jésus dans le Saint-Esprit fut différent de sa naissance par l'Esprit. L'expérience du Jourdain par laquelle Jésus fut baptisé dans le Saint-Esprit fut totalement différente de ce qui s'était passé à sa naissance. Jésus avait été conçu par le Saint-Esprit. Il possédait le Saint-Esprit dans toute sa plénitude dès le moment où il fut conçu dans le sein de Marie. Tout au long de sa vie, jusqu'à cette expérience du Jourdain, il avait été rempli du Saint-Esprit, car il n'y avait en lui aucun péché qui puisse usurper la place du Saint-Esprit. Cependant, Bien qu'étonné du Saint-Esprit et rempli du Saint-Esprit, il n'osait pas commencer publiquement son ministère sans que le Saint-Esprit vienne sur lui d'une manière spéciale au Jourdain. Cette expérience du Jourdain fut unique en son genre. Ce fut une onction spéciale, un revêtement unique du Saint-Esprit et de puissance pour la tâche que Dieu lui avait préparée. La Bible dit « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » Actes 10, 38. Le baptême de Jésus dans le Saint-Esprit fut accompagné de signes visibles. Dieu avait dit à Jean qu'il lui montrerait un signe, pour confirmer que Jésus était celui qui baptise du Saint-Esprit. Jean dit « Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. » Jean 1, 33. Dieu avait décidé qu'il y aurait un signe convaincant au moment où son Fils serait baptisé dans le Saint-Esprit. Il avait dit à Jean de chercher un signe de confirmation et il y eut évidemment un signe. La Bible dit « Dès que Jésus était baptisé, il sortit de l'eau. » Et voici, les cieux s'ouvrirent, page 40. Rang, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles: « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Matthieu 3, 16-17. Jean ne vit pas seulement l'Esprit. Il entendit aussi une voix. Ainsi, lors du baptême de Jésus dans le Saint-Esprit, il y eut à la fois deux signes inhabituels, dont l'un put être vu et l'autre entendu. Le baptême de Jésus dans le Saint-Esprit l'entraîna dans un conflit avec le diable et dans la recherche d'une plus grande communion avec Dieu. Le baptême de Jésus dans le Saint-Esprit ne fut pas immédiatement suivi d'un ministère public visible. Cela ne le conduisit pas immédiatement à une démonstration de sa puissance. Cela ne le conduisit pas à être acclamé par les hommes. Au contraire, le Saint-Esprit, dans lequel il avait été baptisé, le conduisit dans le désert pour une confrontation avec le diable. Les hommes charnels auraient pu dire « Avec le diable tu as reçu l'onction indispensable. Va opérer des prodiges et des miracles. » Jésus ne le fit pas. Il s'est plutôt engagé dans un long jeûne, peut-être le plus long de son ministère terrestre. Son baptême dans le Saint-Esprit fut tout de suite suivi de cette longue période de recueillement dans le jeûne. Après son baptême, Jésus ne se précipita pas dans le monde. Il se précipita vers Dieu. Il chercha Dieu d'une nouvelle manière, dans la voie coûteuse de 40 jours de jeûne. Non seulement il chercha Dieu, mais il lutta contre le diable et le vainquit seul à seul dans le désert. Serait-ce la raison qui explique l'impuissance du pentecôtisme actuel? Serait-ce la raison pour laquelle l'Église primitive semble avoir perdu la plus grande partie de son dynamisme bien avant la fin du premier siècle? Pour Jésus, ce fut la colombe, le baptême dans le Saint-Esprit, le désert une retraite solitaire, le diable la victoire sur Satan dans le monde invisible, avant de s'engager dans un ministère public dans le monde visible. Page 41. Je crois fermement qu'il s'agit là du modèle de Dieu pour son corps, toujours valable à l'heure actuelle. Qu'il ait été suivi ou non, cela a toujours été le modèle de Dieu. L'exemple de l'Ancien Testament, l'apôtre Paul a dit « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nue et qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer encore. » 10:1-2. Ici, le baptême n'était pas seulement dans la mer, mais aussi dans la nuée. Mais il ne suffisait pas qu'ils soient baptisés dans la nuée. Ils devaient aussi être baptisés dans la mer. Les deux baptêmes formaient deux expériences nécessaires, mais distinctes et séparées. Leur baptême dans la nuée, et qui équivaut au baptême chrétien dans le Saint-Esprit, eut lieu au moment où ils en avaient le plus besoin. Ils étaient très menacés et avaient très peur. C'est à ce moment que Dieu descendit dans sa puissance. Car l'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël, partit là derrière eux, et la colonne de nuée, le Saint-Esprit, qui les précédait, partit et se tint derrière eux. Exode 14, 19. C'est comme si, en se déplaçant de devant, pour aller se placer derrière eux, la nuée avait passé à travers eux, pour les baptiser dans le Saint-Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit est pour ceux qui en ont fini avec eux-mêmes, pour ceux qui ne peuvent plus continuer et, même une journée de plus, sans avoir la puissance promise. Quiconque parvient à ce point et se tourne vers celui qui baptise du Saint-Esprit n'attendra pas longtemps pour être baptisé et rempli du Saint-Esprit jusqu'à en déborder. La première Pentecôte, elle était promise, page 42. Jésus avait dit à ses disciples, vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut, Luc 24, 48-49. La Bible dit comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit, Actes 1, 4-5. B. Ce qu'elle devait être un ? Elle devait être un revêtement de la puissance d'en haut de Dieu à travers Christ, dans le but de prêcher la repentance et le pardon au nom de Jésus, par ce dont la vie était passée, par l'expérience transformatrice de la nouvelle naissance en Jésus. 2. Elle devait être l'accomplissement de la promesse du Père. 3. Le Saint-Esprit devait descendre sur eux d'une manière spéciale, ce qui devait avoir pour résultat de leur donner la puissance pour évangéliser le monde, Actes 1, 8. C. Que se passait-il dans les lieux célestes ? Les disciples n'auraient pas pu être baptisés dans le Saint-Esprit tant que Jésus était sur la terre car, quoiqu'étant celui qui baptise, il n'avait pas encore été glorifié. La Bible dit le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'avait pas encore été donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Page 43. Jean 7, 37-39. Le jour de la Pentecôte, Pierre disait ce Jésus, que Dieu a ressuscité, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit, qui avait été promis, et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez, Actes 2, 32-33. Ainsi, un certain nombre de choses se passèrent dans les lieux célestins. Jésus ressuscite. 2. Jésus est exalté et monte sur le trône. 3. Jésus reçoit du Père le Saint-Esprit. 4. Jésus répand le Saint-Esprit sur les disciples. Ce qui se passa dans le ciel eut des répercussions sur la terre. Ce fut clair et évident sur la terre, car le résultat se manifesta de manière à pouvoir être vu et entendu. D. La préparation de la première Pentecôte. La première chose qui s'accomplit pendant cette préparation fut la séparation d'avec le monde. La petite compagnie de croyants retourna du mont des Oliviers à Jérusalem. Ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire, Actes 1, 12-13. Ils étaient séparés du monde et aussi séparés de tous ceux qui ne voulaient pas du baptême dans le Saint-Esprit ou qui ne s'en occupaient pas. Ils étaient aussi séparés du péché, car comment auraient-ils pu s'attendre au Seigneur si le péché était encore demeuré dans leur cœur? Ils s'étaient séparés pour Dieu. Dieu était leur unique souci et leur seul réconfort? C'est lui qu'ils voulaient. La deuxième chose qu'ils firent fut de réaliser leur union. La Bible dit tous d'un commun accord. Actes 1, 14. Ils n'étaient pas divisés dans leur attente. Ils connaissaient tous ce qui avait été promis et ils l'attendaient. Il est presque impossible de voir, dans une même assemblée, des chrétiens qui se querellent et qui sont divisés, recevoir la puissance du Seigneur. Le page 44. Plus important n'était pas simplement le fait d'être assemblés sous un même toit. Ce qui était capital, c'était qu'ils soient d'un commun accord. Il n'y avait pas de distinction de sexe. Les hommes, aussi bien que les femmes, étaient là. Car Dieu ne fait pas de discrimination. La troisième chose fut qu'ils persévéraient dans la prière. Ils ne se sont pas contentés de prier, ils ont persévéré dans la prière. Ils en ont fait leur première et leur seule préoccupation. La persévérance dans la prière fut la clé des événements qui suivirent. Ils le savaient depuis le jour où Jésus leur avait enseigné la persévérance dans la prière, Luc 11, 1-13. Il avait terminé en disant « Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ?» Luc 11, 13. Il savait que le Père était désireux de leur donner le Saint-Esprit, comme Jésus le leur avait promis, mais il savait aussi que des mauvais esprits pourraient s'y opposer et bloquer la bénédiction, Daniel 10, 2-21. Il le savait, et ceci les fit persévérer dans la prière ? La quatrième chose fut qu'ils avaient soif et désiraient boire. Jésus leur avait dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Jean 7, 37. Leur soif du Saint-Esprit était si grande qu'ils étaient prêts à persévérer dans une prière incessante pendant 10 jours, jusqu'à ce que le Saint-Esprit descende sur eux. Et je crois qu'ils auraient continué avec la même persévérance si le Seigneur avait encore attendu plusieurs semaines avant de répandre le Saint-Esprit. Cette soif et cette volonté de persévérer dans la prière et dans la présence de Dieu sont les caractéristiques de tous ceux qui veulent aller plus loin avec Dieu dans tout ce qui concerne le Saint-Esprit. Eux, comment le Saint-Esprit a été reçu? Page 45. Le Saint-Esprit descendit sur eux. Jésus reçut le Saint-Esprit du Père et le répandit sur eux, et ils furent tous baptisés par Jésus dans le Saint-Esprit. Ce fut une profonde réalité qui fut reçue dans la profondeur de leur esprit. Ce fut quelque chose de tellement profond que seul Dieu put le voir à ce niveau. Fondamentalement, ce fut la chose la plus importante. Il y eut des manifestations extérieures, mais elles furent secondaires par rapport à cette réalité intérieure profonde dans leur esprit. C'est la raison pour laquelle toutes les conditions de Dieu doivent être remplies, car les manifestations extérieures peuvent être manipulées, mais seul le Seigneur Jésus peut accomplir cette œuvre profonde dans l'esprit humain. Cependant, il y eut aussi des manifestations visibles. D'abord, il y eut un bruit comme celui d'un vent impétueux. Ce fut quelque chose que l'on put entendre. Ensuite, il y eut une présence manifestée, la présence bénie du Saint-Esprit. Cette présence remplit toute la maison où ils étaient assis. Ce fut quelque chose que l'on put sentir. Enfin, des langues de feu descendirent sur eux. Ce fut quelque chose que l'on put voir. Lorsque toutes les choses que l'on put entendre, sentir et voir se furent produites, la Bible dit et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, Acte 2, 4. Que se serait-il passé s'ils étaient partis immédiatement après qu'ils aient entendu, senti et vu la présence du Saint-Esprit? Ils n'auraient été touchés que dans leur sens et ils auraient ainsi manqué la réalité profonde. Ils furent profondément remplis dans leur esprit et le Saint-Esprit, dans lequel ils venaient d'être baptisés, leur rendit témoignage dans leur être intérieur qu'ils étaient remplis. Ce n'étaient pas les manifestations extérieures qui les avaient convaincus. C'était l'assurance intérieure d'une intervention du Seigneur Jésus qui leur prouvait que la promesse avait été accomplie. Cette réalité profonde dans leur esprit fut immédiatement suivie par une manifestation visible. Ils étaient remplis et ne pouvaient pas empêcher le flot de sortir. La Bible dit, il se page 46, « Mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer, Acte 2, 4. » Ces langues étaient une extériorisation de la réalité profonde qu'ils avaient vécue. Le Saint-Esprit leur donna de s'exprimer. Ils n'avaient pas appris ces langues. En fait, ils ne pouvaient pas se taire. Ces disciples ne pouvaient pas s'empêcher de parler en langue. Ils venaient d'ouvrir les écluses à des fleuves d'eau vive qui coulaient en eux. Comment auraient-ils pu garder le silence? Après chaque vrai baptême dans le Saint-Esprit, il y a toujours un tel débordement. Il ne peut pas remplir sans faire déborder. Les langues constituent la manière normale choisie par le Saint-Esprit pour commencer à déborder en quiconque vient d'être baptisé dans le Saint-Esprit par Christ. Pourquoi en est-il ainsi? C'est à cause de la nature fondamentale du Dieu trinitaire. Toute relation normale est d'abord orientée vers Dieu et ensuite vers l'homme. Les langues sont fondamentalement orientées vers Dieu. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. 1 Corinthiens 14, 2. Les langues sont faites pour adresser des actions de grâce à Dieu. 1 Corinthiens 14, 16-17. Dans le baptême dans le Saint-Esprit, c'est Jésus qui baptise, c'est l'homme qui est baptisé dans le Saint-Esprit, et c'est Dieu le Père qui reçoit la première manifestation des langues de louange et d'action de grâce. Mais notons qu'il y eut deux événements distincts. Premièrement, ils furent remplis, et ensuite le fait d'être rempli se manifesta par le parler en langue. Que se serait-il passé s'il y avait eu des langues sans qu'ils aient été profondément remplis du Saint-Esprit? Cela aurait été quelque chose de momentané, de passager, sans résultat durable. Je crois que c'est le cas de très nombreuses personnes dans les milieux pentecôtistes aujourd'hui. Elles ont eu des manifestations, mais la réalité profonde n'a jamais eu lieu. Par conséquent, ces gens n'ont aucun des signes permanents qui accompagnent ceux qui sont remplis du Saint-Esprit. Page 47. Les langues de feu démontrent que deux choses se sont produites chez les disciples. Le feu purifie. Les disciples furent comme purifiés d'une manière toute particulière. Quelque chose se passa en eux qui devait leur faire haïr le péché d'une manière toute particulière. Tous ceux qui sont remplis du Saint-Esprit haïssent le péché. Personne ne peut tolérer le péché ou s'amuser avec le péché et être en même temps rempli du Saint-Esprit. Ensuite, le feu enflamme. Les disciples ne furent pas seulement purifiés, mais aussi enflammés. Ils étaient en feu, brûlant pour Jésus. Ils brûlaient littéralement pour lui. C'étaient des hommes en feu. Sans beaucoup d'éducation, sans rien avoir pour eux au niveau humain, ils remplirent tout Jérusalem de l'enseignement de Jésus. Ce saint zèle pour le Seigneur et pour son œuvre est la caractéristique indispensable de tous ceux qui sont remplis du Saint-Esprit. Ils sont comme hors d'eux-mêmes, remplis d'amour pour Jésus et pour sa cause, et rien ne peut les faire reculer. Tout chrétien nonchalant n'est pas rempli du Saint-Esprit. Ces manifestations furent si évidentes que ceux qui étaient là entendirent le bruit et les parler en langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, acte 2, 6-7. Il y aura toujours quelque chose à voir et à entendre pour les non-croyants si ceux-ci sont présents au moment où quelqu'un est en train d'être rempli du Saint-Esprit. Il y aura toujours quelque chose d'étonnant et de surprenant pour le non-croyant qui le poussera parfois à se moquer, acte 2, 12. F. Les résultats 1. La hardiesse, les disciples craintifs parlèrent avec hardiesse et risquèrent tout pour Jésus. 2. Le zèle, ils remplirent tout Jérusalem de l'Évangile. 3. Le feu sacré, ils étaient tellement enflammés qu'ils ne... Page 48. Pouvaient pas se taire. Pierre et Jean, tout enflammés, dirent « Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu » acte 4, 20. 4. Ils gagnèrent des âmes en grand nombre pour Christ. 5. Ils furent emprisonnés. 6. Ils étaient remplis d'amour et de sollicitude les uns pour les autres, acte 4, 32-37, et pour leurs ennemis, acte 7, 60. 7. Ils étaient assidus à la prière et à l'enseignement de la parole. Ils appréciaient la présence de Jésus plus que jamais auparavant. Les Samaritains baptisés dans le Saint-Esprit, acte 8, 4-19, Philippe se rendit en Samarie et y prêcha l'Évangile. Des gens crurent et furent baptisés. Cependant, ils n'avaient pas reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Ils étaient convertis. Le Saint-Esprit habitait en eux, mais ils n'avaient pas encore été baptisés dans le Saint-Esprit par le Seigneur Jésus. Ils étaient convertis et baptisés d'eau, mais pas baptisés dans le Saint-Esprit.